le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour les amis, voilà, il est 14h35, je prends la suite de Bérénice, ne vous inquiétez pas, elle reviendra au micro. On est sur la seconde journée de l'Association des maires d'Île-de-France, le salon qui a lieu tout juste avant l'été, qui réunit les acteurs politiques franciliens essentiellement. Alors là, je suis très heureux parce qu'on va recevoir un maire comme on les aime, qui a vraiment les pieds sur le terrain, avec une vraie vision de sa ville. Il est maire de Houille, conseiller départemental, vice-président de l'agglomération. C'est Julien Chambon qui est avec nous. Bonjour Julien.
Merci Sylvain, bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir de vous croiser. Vous êtes toujours très fidèle à notre média et merci d'être là parce que vous parlez vrai, vous parlez directement et c'est ça qu'on aime parmi les politiques. Et également merci. Sur le chapitre énergie, qui est un vrai sujet pour la ville et pour l'urbanité, bien évidemment. On a le directeur commercial pour tout ce qui est entité publique d'ACT Group qui est avec nous, c'est notre Tariq Belkessam.
Bonjour Sylvain, bonjour Monsieur le maire. Merci à Radio Immo.
Comment ça va Tariq ?
Bah super, super salon. Ouais. On échange avec beaucoup d'élus sur ces thématiques de rénovation énergétique et de financement associé. Je suis heureux de pouvoir échanger de ces sujets avec Monsieur le maire.
Alors justement, des sujets d'énergie dont on va parler, mais dans un premier temps, je voudrais faire réagir Julien sur le drame que traverse le pays sur la crise du logement, qui est un véritable fléau. Je vous donne quelques chiffres. 17% des étudiants en 2024 avaient renoncé à leurs études, faute de logement. Ils seront 22% en 2025. Gravissime. Mais plus fort, les personnes qui ont signé un contrat à durée déterminée, il y en a à peu près équivalent 16% qui ne signeront pas leur contrat parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement dans les grandes agglomérations. Donc pas de contrat, pas de travail, bien évidemment. Mais pire, on se rend compte que le marché locatif privé, comme le marché locatif social, s'est divisé par deux dans les trois dernières années. Le nombre de SDF a doublé. On a l'équivalent de pratiquement 7 millions de foyers qui sont en attente de logements sociaux. 2,5 millions de foyers dans un état d'urgence en termes de logement. Vous êtes politique, vous êtes maire d'une ville, vous savez ce que ça veut dire. Que se passe-t-il ? Comment on fait ?
Il se passe qu'à un moment donné, on a un peu dégoûté tout le monde du sujet, quelque part, puisqu'on a fait une approche de construction de logement basée exclusivement sur le fait de on rase ce qui existe et on reconstruit derrière. Donc moi je suis maire de la ville de Houille, c'est une belle ville des Yvelines, à l'ombre de la Défense. Pourquoi on vient vivre à Houille ? On vient chercher la maison, le jardin, le cadre de vie.
Très juste.
Mais ces cadres de vie-là, il a été aussi construit par des gens plus modestes. Il n'est pas que ouvert aux gens qui sont cadres CSP+, qui travaillent à la Défense.
Voilà, merci de le dire. Voilà.
C'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver.
Voilà, absolument.
Comment on permet à chacun de choisir son lieu de vie près de là où on travaille et de pouvoir se loger décemment.
Exactement.
Et ça, aujourd'hui, les maires de France, d'Île-de-France de surcroît, parce que vraiment en Île-de-France, on a les situations les plus difficiles en termes de tension sur le logement, vous l'avez dit. Trouver un logement, c'est vraiment très difficile. Trouver un logement abordable, avec un loyer qui ne va pas vous prendre 35-40% de votre ressource, de votre salaire, c'est extrêmement difficile. Donc nous, on a cette responsabilité-là de permettre à nos habitants de se loger. Sauf qu'aujourd'hui, on ne nous en donne pas les moyens. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens. Quand on a un nouvel habitant qui arrive dans une ville, vous n'avez plus de taxes d'habitation. Vous n'avez plus de ressources liées au fait qu'il y a un nouvel habitant.
Malgré les compensations.
Mais malgré les compensations.
Ça a marché les compensations ou pas ?
Vous compensiez à l'instant même où on avait supprimé cet impôt local. Mais ensuite, si vous avez de nouveaux habitants, on n'a plus de compensation.
Eh oui.
Et même le lien de l'habitant à la ville, il arrive, il paye son loyer à son propriétaire, mais il ne paye plus du tout à la collectivité quoi que ce soit.
Et les dotations ?
Donc, les dotations, elles, mécaniquement, elles ont baissé.
On parle d'écart l'État de 25 à 30%.
L'État n'a plus de moyens. Donc, on ne peut plus attendre de l'État. On ne peut plus attendre de l'État qu'il nous propose des moyens face aux obligations qu'il fait peser sur nous. C'est ça le problème. C'est que l'État, ayant de moins en moins de moyens, il exige de plus en plus aux collectivités. Donc, où il doit construire de logements sociaux, c'est intéressant parce que ça permet de loger des gens modestes. Mm-hmm. Mais le logement social, qui c'est qui le finance ? La ville de Houille n'a pas les moyens de financer les logements sociaux. Le département des Yvelines, par exemple, celui auquel on appartient, n'a pas les moyens. Là, il y a une crise budgétaire de l'immobilier.
Absolument.
Les subventions se sont taries. L'État n'est pas capable de compenser. Donc, qui c'est qui, à la fin, va payer pour les autres ? Ça risque d'être le Français qui, lui, s'est endetté à titre personnel auprès de la banque pour acheter son bien, qui va le payer plus cher pour payer celui des autres. Donc, on voit bien que les équilibres n'existent plus. Il faut avoir une rupture dans la politique du logement. Il faut imaginer d'autres façons de faire sans argent public, avec moins d'argent public, mais aussi permettre aux gens d'accepter l'arrivée de nouveaux habitants, d'accepter de nouveaux logements. C'est tout le challenge et le défi en fait, qui s'offre à nous, les maires d'Île-de-France notamment.
Julien, vous venez de décrire la vie quotidienne du maire. C'est terrifiant. Vous représentez-vous en 2026 pour un second mandat?
Le travail de maire ne peut pas s'évaluer à un seul mandat, très clairement. On a lancé des dossiers là, sur la ville, on a préempté des terrains qui étaient en friche depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'au pied de la gare,
30 ans.
J'ai 1,5 hectare de terrain qui ne servent à rien. On a réussi à l'acheter. Ça nous a pris 4-5 ans de travail après 30 ans d'immobilisme. Vous imaginez bien que maintenant, pour faire quelque chose de ces terrains-là, ça va reprendre 3-4 ans. Vous le disiez, les normes environnementales, d'urbanisme, de construction, se sont intensifiées. On a un code de l'urbanisme qui s'est épaissi de façon magistrale. On doit faire face à une lenteur dans le montage des projets. On passe plus de temps à monter un projet qu'à le réaliser. J'ai pris une décision de construire une maison de santé au rez-de-chaussée d'un immeuble de logements sociaux. Donc on fait des logements pour ceux qui en ont le plus besoin, et au rez-de-chaussée, on fait des cabinets médicaux, ce dont on a grandement besoin sur la ville de Huy, par exemple, en zone urbaine. Ça m'a pris 3 ans pour monter le projet. J'ai pris la décision en janvier 21, on a posé la première pierre en février 2025. Est-ce que c'est normal?
Non, vous avez raison. Comment on fait C'est quoi la solution, Julien? Est-ce qu'il va falloir nécessairement attendre le secours des urnes en 2027 pour changer de politique? Parce qu'il faut être très clair. Le président Emmanuel Macron, et on ne dit rien de spécial à titre personnel, c'est une faillite politique incroyable. Incroyable. Je regardais ce matin le taux d'impopularité, c'est un record. Déjà que Nicolas Sarkozy avait quand même battu le record d'impopularité, alors là on est dans les sommets. C'est donc la solution, on est d'accord, Julien, tout est politique, on est d'accord que tout est politique dans le logement.
Dans le logement, si vous n'avez pas de vision politique, vous n'arrivez à rien.
On est d'accord.
Vous n'arrivez à rien.
Donc c'est quoi? C'est l'alternance qu'il faudra? C'est nécessairement une alternance?
Il n'y a pas que ça. Moi, je me suis engagé en tant que maire à faire valoir, à travers ma parole et dans des radios comme la vôtre, on peut s'exprimer. On ne nous entend pas. On ne nous écoute pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on élabore des solutions législatives, réglementaires, peu importe, on se moque, on se fiche de la parole du maire. Lui qui est dans l'acte de construire, puisque c'est lui qui signe le permis de construire. C'est lui qui a la vision de la ville. C'est lui qui rend compte à ses habitants. C'est lui qui anime toute la démocratie liée à l'avenir du
commun. C'est d'ailleurs le mandat le préféré des Français. Vous savez, les Français aiment leur maire. C'est le seul. Hein.
Mais c'est le mandat qu'ils comprennent, et c'est le mandat dans lequel ils peuvent interpeller l'élu et avoir une discussion avec lui. Sauf que nous, aujourd'hui, on est largement piétinés. On n'est plus entendus. La loi ne se fabrique plus de par l'expérience de terrain des élus locaux. Il y a depuis 10 ans, c'est vrai que ça, c'était la faillite, on va dire, de ce système politique qui a déconnecté les élus nationaux des enjeux locaux. Et on a un appauvrissement de cette expérience-là. Quand on fait dans les communes, on n'a pas le droit d'échouer. On doit trouver des solutions, on doit être pragmatique, on doit trouver des alternatives, faire des compromis. C'est comme ça qu'on avance. Et au niveau national, on n'est pas capable de faire remonter, de faire redescendre finalement quelque chose qui nous facilite. Pour simplifier les choses, simplifier les procédures. Aujourd'hui, vous devez saisir une agence de l'environnement, vous devez saisir, vous avez des délais incompressibles pour adapter, je vous dis, construire une maison de santé, faire venir des médecins. Ça a été 1 an de procédure pour mettre en conformité le projet avec notre règlement. Alors que, fondamentalement, en 15 jours, on pouvait écrire les motifs et on pouvait avoir l'autorisation. Mais non, ça a pris 1 an. Est-ce que c'est normal, ça? En fait, on fabrique une machine à perdre. Les citoyens, les habitants nous disent...
Une machine à perdre. Ah
vous ouais. savez plus ah quoi, ouais. vous savez ah plus ouais. faire. Vous êtes nul.
Ah ouais.
Et en fait, ils jettent le bébé avec l'eau du bain.
C'est ça, ils jettent le bébé avec l'eau du bain.
Bien sûr.
Et souvent, et d'ailleurs, on le voit, parce qu'il y a aussi une autre statistique qui est terrifiante. Vous avez vu le nombre de maires qui ont jeté l'éponge en cours de mandat? 35% sur leur premier... C'est fou. Donc aujourd'hui, les gens arrêtent parce qu'ils sont... Ils sont dégoûtés, quoi. Ils ont l'impression de ne pas être considérés. C'est un très mauvais signal envoyé par l'exécutif. On est d'accord là-dessus ou pas?
En fait, je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont fabriqué un système qui perd.
Carrément, ah oui.
Mais c'est... Et donc, ceux c'est qui pire. Vont ramasser la mise,
c'est pire.
C'est ceux qui vont être le plus capables de capitaliser sur la colère.
Bien sûr. Bien
Sauf
sûr.
Que ça ne suffit pas. Oh. Être en colère, ça peut être intéressant. Moi-même, je le suis tous les jours en tant que maire quand on subit des situations encore et encore. Non, mais on peut subir des choses, on se dit, mais il faut y mettre un terme. Je parlais des rodés urbains. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit, avec la police municipale ou la police nationale, de poursuivre quelqu'un qui fait un rodéo urbain sauvage dans la ville. Parce qu'on pourrait prendre le risque de le blesser ou de blesser quelqu'un. On ne peut rien faire. Et je vois la moto passer devant moi 3-4 fois. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas prendre ma voiture et créer un accident corporel. C'est moi qui serai poursuivi par la justice.
Ça finira de toute façon. L'issue ne peut pas... Alors, vous parlez de ça. Une forme d'ensauvagement et de déni de la République. Et pire du déni de la République, c'est la faillite de l'autorité même de l'État. Ce creuset dans lequel, républicain, dans lequel on a toutes les communautés qui partagent cette idée, parce qu'on peut parler aussi de la fragmentation sociale avec les problématiques de différentes couches culturelles et cultuelles, les questions de religieuses n'ont jamais pris la dimension qu'elles prennent en ce moment. On fait de très mauvais procès à la communauté musulmane de France. Parce que forcément, le Pékin moyen, bah, il ne fera pas la différence entre un islamisme radical et un islam républicain qui existe pour une écrasante majorité. Je rappelle quand même qu'il y a 7 millions de musulmans et qu'on avait chiffré le radicalisme environ à 10 000 personnes. Donc très marginal, mais qui le sait ? Qui le sait ? Et le problème, c'est comment on fait pour avoir une meilleure cohésion sociale, et on voit aujourd'hui un spectacle où on ne fait qu'attiser les colères et les divisions. Ça doit choquer le maire que vous êtes.
En fait, aujourd'hui, quand on constate un problème d'incivilité et d'occupation du domaine public, des gens qui squattent une cage d'escalier, qui squattent une rue, qui vont fumer un produit stupéfiant dans la rue, ces gens-là sont une minorité. Mais ces gens-là, on ne peut rien leur faire. L'autorité, vous l'avez dit, l'autorité de l'enseignant, l'autorité du médecin, l'autorité de l'élu, l'autorité du policier, cette autorité-là,
Elle doit être restaurée.
Et c'est ça, cette crise-là. Mais les gens, ils ne demandent que ça.
Ouais.
Que la minorité d'emmerder la majorité.
Réaffirmer l'autorité et ne pas laisser des territoires dans lesquels la République s'arrête devant l'entrée. Parce que le problème, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le livre de Bensoussan sur les territoires perdus de la République. Autre sujet, parce que je profite de la venue de Tariq Belkacem avec nous. Alors lui, il a un job en or massif, puisque il trouve de l'argent pour financer les collectivités locales et les aider à rénover. Justement, vous êtes un spécialiste en Europe. Vous êtes un spécialiste européen, parce que vous faites partie d'un groupe qui est d'origine hollandaise. Vous êtes l'un des leaders du marché sur ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Des villes comme Houille, qui ont des problématiques, par exemple, de raccordement de réseaux de chaleur, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou des sujets de rénovation énergétique, de l'éclairage public, de beaucoup de sujets, c'est quelque chose que vous maîtrisez particulièrement. Pourquoi aujourd'hui les collectivités locales sont à ce point à votre écoute, Tariq ?
Tout d'abord, c'est une question de transparence du dispositif. C'est un dispositif qui est voué et qui l'est à être toujours mis en difficulté de par une réglementation qui change continuellement. On a une réglementation qui était plutôt semestrielle, c'est-à-dire qu'on voyait des modifications, des suppressions ou ajouts de dispositifs par semestre. Maintenant, on est sur un rythme hebdomadaire quasiment. Donc c'est très difficile pour une collectivité, et je pense encore plus pour un maire qui a, en plus de la rénovation énergétique, d'autres sujets sur son territoire, de suivre. Donc dans un premier temps, c'est la compréhension et la transparence du dispositif. Dans un second temps, les collectivités, elles sont assujetties à différentes normes, comme l'a dit M. le maire auparavant, sur l'urbanisme, mais en même temps sur la rénovation. Donc parfois, les différents mécanismes ne concordent pas entre les objectifs de la collectivité et ceux imposés par le pouvoir public. Et c'est pour ça qu'elles font souvent appel à des experts pour les accompagner, identifier les gisements applicables de subventions, les programmes travaux qui peuvent matcher entre guillemets avec leur plan pluriannuel de rénovation, et dans un troisième temps optimiser les financements qui sont pas.
Et c'est là que vous intervenez, parce qu'en fait vous permettez, parce qu'il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, je voudrais avoir la réaction du maire de Houille sur le dispositif. Vous êtes dans un métier dont le public trouve parfois opaque, pas clair. Il y a eu beaucoup d'éco-délinquance dans votre activité. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre position, parce que vous êtes sans appel là-dessus. Et pour vous, c'est criminel, et donc vous êtes très. C'est bien que des groupes prennent ce genre de position, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir une certaine défiance. Alors l'avantage que vous dites, c'est que quand vous êtes sur les C2, ce qu'on appelle certificat d'économie d'énergie, vous êtes transparent, c'est-à-dire que vous les reversez à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, vous permettez à la collectivité de mesurer à quel point cette subvention est traçable du début à la fin.
Exactement.
C'est ça qui est intéressant.
Exactement. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qu'on veut apporter à la collectivité, c'est les éléments qui lui permettent de prendre une position et du coup d'aider à l'arbitrage. Vu qu'il y a deux moyens de percevoir les certificats d'économie d'énergie, soit la prime C2E en direct, ou alors déduite du montant des travaux. Souvent, c'est ces montages qui peuvent paraître, comme vous le dites Sylvain, opaques, qui sont difficilement mesurables et maîtrisables. Et c'est là où on intervient auprès de ces acteurs-là pour leur fournir la transparence.
Raccordement des réseaux de chaleur, ça c'est votre périmètre. pour les collectivités locales, les bâtiments publics également.
Bien sûr.
Également. Et puis, tout n'est pas éligible, et c'est pour ça que vous intervenez pour rendre l'éligibilité sur des travaux.
Exactement.
À l'heure où les collectivités locales n'ont plus les moyens, pour être très clair, hein, puisque alors vous êtes obligé, vous êtes condamné à avoir un budget à l'équilibre, hein, nonobstant les investissements, bien évidemment, hein, je fais ça part bien les deux, vous avez ces dispositifs, je ne sais pas si vous les utilisez, vous, Julien, mais c'est hyper intéressant que vous ayez encore ce relais. Est-ce que vous utilisez ce type de formule qui permet d'abonder parfois, vous m'avez dit, Téric, parfois on peut aller jusqu'à 100% des
Il y a des cas où c'est possible.
Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Bien sûr. Je te rassure, on équilibre aussi nos budgets d'investissement. Mais on peut faire un emprunt pour ça.
Oui,
non mais. On peut s'endetter.
Oui.
On peut pas voter un budget,
tu as raison. Effectivement. Mais tu sais pourquoi je le précise ? Je le précise parce que je trouve incroyable qu'on ait un état d'honneur de leçon de gestion. Non mais.
Bien sûr.
Je sais pas, je serais maire, moi ça me choque. Intellectuellement, ça me choque.
À partir du mois d'octobre,
ouais.
L'État paye ses fonctionnaires à crédit. Pour une entreprise, c'est la cessation de paiement que ça veut dire. On autorise les finances publiques à payer des salaires avec de l'endettement. Est-ce que tu imagines la situation dans laquelle on est ?
Ah non, mais c'est...
Donc on creuse une tombe toujours plus profondément et on ne s'en sort pas. C'est un cercle vicieux. Mais bon, c'est un autre débat.
Ça fait peur, surtout.
Ça fait peur, parce que oui. Là, à chaque fois, tu as la pente à remonter et d'autant plus importante
bien sûr.
Que tu payes quelque chose que tu dois payer de quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est important et... Monsieur, et j'apprécie beaucoup, hein, et on utilise le système de C2E, mais c'est un symptôme aussi de cette complexité que j'évoquais tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Mais les villes n'ont pas le choix. Elles doivent trouver des ressources. Donc finalement, ça c'est une ressource. On doit faire appel à un expert qui nous permet d'accéder à ce mode de financement qui est indispensable parce que l'État n'a plus d'argent. On ne peut pas augmenter de façon inconséquente les impôts de nos habitants. En tout cas, oui, c'est ce choix-là qu'on a fait d'une bonne gestion en bon père de famille sur l'aspect fonctionnement. Donc, on a nous mis en place, par exemple, du calorifugage. Ce sont nos canalisations d'eau chaude, notamment dans les bâtiments qui sont du coup isolés. Et ça permet d'avoir un vrai gain énergétique. Et c'est éligible, en effet, pour la ville, ça ne coûte pas 1 euro. Mais on cherche vraiment la fiabilité, du financement.
Oui.
Parce qu'il est hors de question, comme tu l'as dit, de faire confiance à quelqu'un qui, au final, ne va pas nous rembourser ou ne va pas être financé correctement dans les règles. Ça, c'est très dangereux pour les collectivités. Donc, on recherche de la fiabilité
Absolument.
Sur le financement. Et on recherche de la fiabilité sur l'aspect technique. Ce n'est pas parce que c'est gratuit pour la ville qu'il faut que ce soit mal fait. Et ça, c'est comme les habitants de nos villes. Hein. Bah, prime rénov', vous avez à boire et à manger. Les entreprises qui vous disent on fait les combles à 1 euro, c'est mal fait,
c'est du vol,
c'est à refaire, et d'ailleurs en plus c'est du vol. Parce qu'ils clôturent l'entreprise quand ils ont touché la subvention.
Non mais qui peut croire une chose. C'est comme la pompe à chaleur, tu sais, la pompe à chaleur à 1 euro là.
Exactement. Vigilance.
Il faut être vent debout. Tariq, tous ces acteurs qui sont parfois un peu voyous, ça jette le discrédit parfois sur votre métier. Et c'est vrai que vous devez vous. Rétablir un certain équilibre constamment, parce que ça, vous le vivez au quotidien. Hein.
Oui, il faut toujours adorer notre image, malgré qu'on ne l'a pas dégradée. C'est vrai ce que vous dites, Sylvain. De manière générale, le conseil que j'ai à donner, c'est si vous avez une contrepartie qui est jugée partie, c'est jamais bon. Donc une contrepartie qui vous fait les travaux et en même temps qui les finance...
Comment vous assurez que les travaux sont bien faits ?
Alors il y a différents mécanismes. Alors il y a certaines lois qui régissent le dispositif et qui demandent à ce qu'il y ait des contrôles obligatoires en fonction des travaux qui sont réalisés.
Avec des tiers de confiance.
Exactement, avec des bureaux qui sont accrédités, indépendants et neutres.
D'accord, c'est COFRAC. Hein,
voilà, les bureaux accrédités COFRAC, exactement Sylvain.
D'accord. Et ça on est sûr que c'est garanti. Julien, quand vous faites les travaux, vous avez un COFRAC qui vient, qui dit les travaux ont été bien faits. Vous vous assurez de ça, vous ? Dans le reporting qu'on vous fait en tant que maire, vous êtes sûr de la qualité du contrôle et des accréditations en question.
Nous, on vérifie bien sûr nous-mêmes les travaux qui sont effectués.
Ah oui, très bien.
On n'est pas toujours sachant et expert sur certaines natures de travaux, donc on a besoin d'avoir un bureau de contrôle extérieur.
Bien sûr.
C'est
bien
indispensable. Puis ça donne aussi le satisfecit de l'action réalisée pour pouvoir derrière se faire rembourser l'investissement.
C'est hyper important parce que quand on voit les volumes, parce que pour le carré-lorifugage, vous m'avez dit en antenne, Tariq, qu'on peut aller jusqu'à 100% de couverture.
Oui. Mais c'est ce que Monsieur le maire a programmé sur ce territoire.
C'est génial.
C'est important.
C'est plus qu'une aubaine, c'est très bienvenu. Ce dispositif, qui est privé d'ailleurs, parce que on est d'accord, les C2E, c'est privé.
C'est ça, c'est un financement privé régi par une politique publique.
D'accord. Donc aucun risque pour l'État, quoi. Non, quand je dis l'État, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'État qui paye.
Non.
Ce sont les pollueurs.
Exactement.
Qu'on appelle pollueurs-payeurs, ou les obligés, hein, voilà, c'est le terme un peu, qui payent justement pour compenser leurs émissions de carbone, c'est bien ça.
Exactement, et qui sont soumis à une obligation.
De faire des travaux de rénovation énergétique.
Exactement.
Par exemple, est-ce que vous êtes raccordé à un réseau de chaleur? Oui, je suppose.
Donc sur la ville de Houille, on a un raccordement à un réseau de chaleur qui est alimenté par des fours qui brûlent nos déchets. En gros, on ramasse les poubelles des gens, on les brûle dans des fours immenses. De ces fours-là, bien sûr, se dégage une forte chaleur. Cette chaleur-là chauffe de l'eau et cette eau chaude est réinjectée dans un réseau qui va alimenter nos copropriétés,
j'adore,
notre piscine, nos mairies, notre mairie.
J'adore.
Et ça nous fait du chauffage.
J'adore, j'adore. On a quand même du génie dans ce pays, vous ne trouvez pas?
Jamais.
Vous avez fait, et ça, c'est un choix, c'est le choix, c'est vous qui avez mené ça.
Donc c'est une politique du territoire, bien sûr,
oui,
c'est pas que la ville de Houille toute seule.
Non mais oui, le territoire, mais voilà, vous avez été
on
là.
A ce producteur, entre guillemets, d'énergie, finalement, en brûlant, on brûlait pour rien au début.
Mais oui.
Et en fait, à côté, ça nous a permis aussi d'être vertueux d'un point de vue écologique.
Ouais, oui.
Et ce qui permet aussi de faire baisser les taxes que les collectivités payent, notamment sur les ordures ménagères produites. Il ne faut pas oublier ça. On a une taxe qu'on applique d'ailleurs à nos habitants.
Exactement.
Qui peut être majorée si jamais on ne propose pas de solutions alternatives et vertueuses. Donc le fait de brûler nos déchets, soit c'est bien d'un point de vue... On élimine le déchet, si je puis dire, de son existence, proprement dit, on ne l'enfouit plus, on
ouais,
le brûle.
Exactement.
Mais cette chaleur-là qui était perdue, aujourd'hui, on la réutilise et on fait un gain, bien sûr, économique pour la collectivité. On arrive à mieux maîtriser nos coûts d'énergie. Alors, c'est couplé un petit peu avec le gaz, mais on arrive aussi à mieux lisser et à mieux stabiliser le coût de notre énergie, c'est ce qui est plus simplement lié au marché du gaz, dont on a vu les conséquences.
Et il y a aussi la géothermie, hein, qui est un... Il y a la méthanisation, la géothermie. Il y a vraiment des ressources en énergie renouvelable sur lesquelles vous, en tant que financeur C2E, vous êtes opérant. Quoi.
C'est ça. Alors, il y a différentes sources de chaleur. On en discutait avec M. le maire en antenne. Il y a la récupération de chaleur, comme M. le maire l'a effectué sur son territoire. Il y a les chaudières biomasse. Il y a la géothermie. Il y a les fermes solaires. L'État aujourd'hui promouvoit le changement de vecteur énergétique, de la sortie du gaz.
Oui, bien sûr.
Les territoires sont assujettis à ces objectifs également. Donc aujourd'hui, il y a des financements possibles, il y a des dates butoirs pour obtenir ces financements. C'est là où les collectivités en ce moment se pressent pour faire avancer les projets. Mais comme l'a dit M. le maire précédemment, parfois il est plus difficile, il y a plus de temps pour monter le projet que de le réaliser.
Alors,
c'est ça la vraie difficulté aujourd'hui, c'est le temps.
Alors, c'est bien évidemment. Alors, le temps, ben, c'est ce qui nous manque, parce que moi, je resterai bien une heure ou deux avec vous sur le sujet. Dernière question, Julien, bien évidemment. Vous vous représentez en 2026 pour un second mandat.
Je suis maire jusqu'à la fin, à 100%.
Voilà, à 100%.
On a plein de dossiers, mais...
À 100%, et puis on va espérer qu'effectivement, à la fois pour les législatives et la présidentielle, bien sûr, on ait un renouveau avec une politique pour le bien de tout le monde des Français. Mais la question du logement est très loin d'être tranchée, et je trouve ça assez formidable, et merci encore une fois, Julien, de parler sans détour. Voilà, parce que c'est pas le cas de tous les politiques, et on comprend, parce que vous êtes maire, encore une fois, et que dans votre cabinet... Toutes les semaines, les gens viennent désespérés pour vous demander des logements. C'est le cas, hein. Et parfois, ça doit vous déchirer le cœur de voir des familles dans lesquelles vous n'avez pas de solution.
On lâchera rien.
On lâchera rien,
on écoute le problème et surtout, on est condamné à trouver des solutions. C'est ça, le travail du maire.
Voilà. C'est ce qu'on aime entendre quand on est avec des hommes politiques responsables. Merci, Julien Chambon. Maire
Merci.
De Houille, conseiller départemental, vice-président de l'agglomération. Encore une fois, surtout, changez rien. Et je vous le dis officiellement, bien évidemment, on vous soutient pour 2026. Désolé pour l'opposition. Mais voilà. Tariq Belkessam, merci. Hein, directeur commercial pour ce qui est entité institutionnelle et publique. Merci de ce que vous faites pour les collectivités locales, ce que vous les aidez à financer. Et en plus, vous êtes payé au résultat, il faut le rappeler. Hein, ça ne coûte rien à la collectivité, donc je trouve ça extrêmement important. Surtout, ne changez rien, continuez, on en a tous bien besoin. Il est pratiquement 15h, on se retrouve pour la suite de nos programmes ici, seconde journée du Salon des maires d'Île-de-France.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.